Chapitre 15. Calvin s'adresse au roi et part pour l'Italie. Août 1535. L'institution chrétienne avait pour but de faire connaître à la chrétienté, et spécialement aux protestants de l'Allemagne, la doctrine professée en France par des hommes que le roi faisait mettre à mort. Mais était-ce tout ce qu'il y avait à faire? Calvin crut voir quelque chose de plus pressé encore. Ces représentations, au lieu de passer par l'Allemagne, pouvaient être adressées directement au roi. Dans ses angoisses et ses méditations solitaires, il lui avait si souvent adressé la parole, pourquoi ne le ferait-il pas directement et publiquement? Sans doute, c'est beaucoup entreprendre pour un jeune homme presque inconnu et persécuté que d'interpeller ce puissant monarque qui jette impitoyablement dans les flammes les meilleurs de ses sujets. Calvin ne conçut pas d'abord un projet aussi hardi. « Je ne pensais à rien moins, dit-il plus tard au roi, qu'à écrire des choses qui fussent présentées à votre majesté. » Mais le triste spectacle qu'offrait la France était jour et nuit devant ses yeux. Il savait que le glaive était suspendu sur les têtes de tous ceux qui ne voulaient que Christ seul pour médiateur. Lui était-il permis de se taire? En effet, la lueur des bûchers reparaissait en France. Un pieux laboureur de Bresse, fort exercé en la parole de Dieu, Jean Cornon, saisi dans son village au mois de mai, avait été conduit à Mâcon. Mis en présence de ses juges, il avait parlé avec tant de foi et de courage qu'ils en avaient été étonnés et confus. Aussi, à la fin de juin, on l'avait lié sur une clé, traîné au lieu de supplice et brûlé vif. Un peu plus tard, un barbier de Santerre, Denis Brion, zélé pour l'Évangile, avait été exécuté au grand jour d'Angers, afin d'effrayer les populations accourues de toutes parts à ces fêtes. Les flammes qui brûlaient ces pieux confesseurs dévoreraient peut-être bientôt d'autres hommes de Dieu. Calvin désirait à tout prix les sauver. Il se décida donc à écrire au roi en lui faisant hommage de son livre. Démarche hardie. « Sire, dit-il, vous êtes témoin vous-même par combien de fausses calomnies notre doctrine est tous les jours diffamée. Ne vous dit-on pas qu'elle ne tente à autre fin qu'à ruiner tout règne et tout gouvernement, troubler la paix, abolir les lois, dissiper les seigneuries et les possessions, bref, renverser toutes choses en confusion. Et néanmoins, vous n'entendez que la moindre partie de ces outrages. On sème contre elle d'horribles rapports qui, s'ils étaient véritables, devraient nous faire juger à bon droit dignes de mille et mille gibets. » Ce que Calvin entreprenait de faire, ce n'était pas simplement de montrer que la doctrine évangélique de la Réforme a le droit d'être à côté de la doctrine catholique romaine. Ce point de vue philosophique et chrétien n'était pas celui du XVIe siècle. Si la doctrine évangélique doit subsister, c'est, dit hardiment Calvin, parce qu'elle est la vérité même. Il voulait gagner le roi, gagner le peuple à des enseignements qui, à ses yeux, étaient seuls capables de les éclairer et de les sauver. Notre défense, dit-il, ne consiste pas à désavouer notre doctrine, mais à la soutenir vraie. La vérité, voilà le motif qui ôte à tous ses adversaires le droit d'ouvrir la bouche contre elle. Et c'est par cette raison, sire, que je vous demande de prendre une connaissance entière de cette cause qui, jusqu'ici, a été démenée par une ardeur impétueuse plutôt qu'avec une gravité judiciaire. Ne pensez pas que je tâche de traiter ici ma défense particulière pour demander le retour au pays de ma naissance. Certes, je lui porte telle affection d'humanité qu'il appartient, mais les choses sont maintenant tellement disposées que je ne mène pas grand deuil d'en être privé. Non, sire, j'entreprends la cause commune de tous les fidèles, et même celle de Christ, cause aujourd'hui tellement déchirée et foulée en votre royaume qu'elle semble désespérée. Sans doute, la vérité de Christ n'est pas perdue et dissipée, mais elle est cachée, ensevelie, comme digne de toute ignominie. La pauvrette Église est déchassée par bannissement, consumée par mort cruelle, et tellement étonnée par menaces et terreurs qu'elle n'ose sonner mot. Encore, les ennemis de la vérité ne sont-ils pas satisfaits? Ils insistent avec la rage qu'ils ont accoutumée pour abattre la muraille qu'ils ont déjà ébranlée et accomplir la ruine qu'ils ont commencée. Ici, Calvin se demande si nul ne prend la défense des chrétiens persécutés. Il regarde. Hélas, les évangéliques se taisent. La reine de Navarre fait à peine entendre une timide voix. Les hommes politiques persuadent aux Allemands que les évangéliques de France sont des fanatiques, des fous. Tous tremblent. « Nul, s'écrie-t-il, nul ne s'avance pour s'opposer à de telles furies. Si quelques-uns même veulent paraître favoriser la vérité, ils se bornent à dire qu'on doit en quelque manière pardonner à l'ignorance, à l'imprudence des simples gens. Ainsi, ils appellent la très certaine vérité de Dieu, imprudence, ignorance. Ceux que notre Seigneur a tant estimé que de leur communiquer les secrets de sa sagesse céleste, il les nomme « gens simples » et qui se laissent facilement tromper tant ils ont honte de l'Évangile. Qui donc prendra en main la cause de la vérité ? C'est votre affaire, sire, dit Calvin au roi, de ne détourner d'une si juste défense ni vos oreilles ni votre courage. Il est question d'une grande chose. Il s'agit de savoir comment la gloire de Dieu sera maintenue sur la terre, comment sa vérité retiendra son honneur, comment le règne de Christ demeurera en son entier. Ô matière digne de vos oreilles, digne de votre juridiction, digne de votre trône royal. La pensée qui fait un vrai roi, c'est que le roi se reconnaisse vrai ministre de Dieu dans le gouvernement de son royaume. Un règne qui n'a pas pour fin de servir à la gloire de Dieu n'est pas règne, mais brigandage. À peine Calvin a-t-il ainsi parlé, qu'il lui semble voir François Ier refuser de se détourner de ses brillantes fêtes pour prêter l'oreille au plus vil de ses sujets. Le roi écoute Montmorency, Tournon, il court vers la duchesse d'Étampes. Il accueille même des artistes, des lettrés, mais ces misérables religionnaires, jamais. Sire, dit Calvin, ne soyez pas détournés par le dédain de notre petitesse. Certes, nous reconnaissons que nous sommes pauvres, gens de mépris, devant Dieu de misérables pécheurs, devant les hommes vilipendés, rejetés. Même, si vous voulez, nous sommes la balayure du monde ou quelque chose de plus vil encore, si l'on peut le nommer. Oui, il ne nous reste rien dont nous puissions nous glorifier devant Dieu, sinon sa seule miséricorde, et rien devant les hommes, sinon notre infirmité. Mais aussitôt, l'apologiste se redresse avec une sainte fierté. Toutefois, dit-il, il faut que notre doctrine demeure élevée et insupérable et par-dessus toute la gloire et la puissance du monde, car elle n'est pas la nôtre, mais celle du Dieu vivant et de son Christ que Dieu a constitué roi pour dominer d'une mer à l'autre, depuis les fleuves jusqu'au bout de la terre, et dont les prophètes ont prédit la magnificence en disant qu'il abattrait des royaumes durs comme le fer et les reins et resplendissants comme l'argent et l'or. Ici, l'avocat de ses frères entend l'objection des ennemis. Il les voit entourer François Ier et ne cesser de lui répéter que ces gens, tout en mettant en avant la parole de Dieu, n'en sont que de pervers corrupteurs. « Sire, continue-t-il, vous pouvez juger vous-même, en lisant notre confession, son institution, combien ce reproche est plein de malicieuses calomnies et d'impudence effrontée. Qu'y a-t-il de plus conforme à la foi chrétienne que de nous reconnaître dépouillés de toute vertu pour être vêtus de Dieu, vides de tout bien pour être remplis de lui, esclaves du péché pour être affranchis par lui, aveugles pour être par lui illuminés, boiteux pour être par lui redressés, débiles pour être de lui soutenus, en un mot, de nous ôter toute manière de gloire, afin que lui seul soit glorifié. Ah, nous ne lisons point qu'il y ait eu des hommes repris pour avoir trop puisé à la source des eaux vives. Au contraire, le prophète corrige âprement ceux qui se sont creusés des puits secs et qui ne peuvent tenir l'eau. Calvin essaie même, tentative désespérée, de toucher le cœur du roi. Considérez, sire, poursuivit-il, toutes les parties de notre cause. Nous sommes persécutés. Quelques-uns de nous sont détenus en prison, les autres sont fouettés, les autres contraints à faire amende honorable, les autres bannis, les autres échappent par la fuite. Nous sommes en tribulation, injuriés, traités inhumainement, tenus pour exécrables et pour maudits. Et pourquoi ? Parce que nous mettons notre espérance au Dieu vivant et croyons que la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Calvin sait fort bien pourtant que le triomphe ne sera pas facile. Il a vu de près les prêtres, dans la capitale, dans les villes de second rang, dans les campagnes. Il croit entendre les cris que poussent les curés dans leur paroisse et les moines dans leur couvent. Voulant donc éclairer le roi, il le fait d'une manière peut-être un peu âpre, selon le style du temps. « Pourquoi nos adversaires, dit-il, combattent-ils d'une telle rigueur et rudesse pour la messe, pour le purgatoire, pour les pèlerinages et tel fatras ? Parce que le ventre leur est pour Dieu et la cuisine pour religion. Parce que, bien que les uns se traitent délicatement et que les autres vivotent en mangeant des croûtes, ils vivent tous d'un même pot, lequel, sans ses branches, messe, purgatoire, non seulement se refroidirait, mais gèlerait entièrement. » Calvin n'ignorait pourtant pas que les ennemis vraiment dangereux de la Réformation n'étaient pas ces prêtres et ces moines qu'Érasme et tant d'autres avaient si souvent flagellés au grand divertissement du roi. Il lui semblait voir Montmorency, des nobles orgueilleux, le cardinal de Tournon et ses acolytes, des docteurs subtils, entrer dans le cabinet du roi et y débiter leurs accusations perfides. « Je les entends, dit-il, ils appellent notre doctrine nouvelle. Certes, je ne doute point que, quant à eux, elle ne soit nouvelle, vu que Christ même et son évangile leur sont tout nouveaux. Mais celui qui sait que cette prédication de saint Paul est ancienne, savoir que Christ est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification, ne trouve rien de nouveau parmi nous. Il est vrai qu'elle a été longtemps cachée, inconnue, mais c'est à l'impiété des hommes que le crime en doit être imputé. Et maintenant que par la bonté de Dieu elle nous est rendue, elle doit au moins être reçue en son ancienne autorité. » Ici, les adversaires persistent. Ils réclament qu'on mettant en leur faveur les anciens docteurs de l'Église. C'était le plus fort argument aux yeux de François Ier, qui affectait un certain respect pour l'ancienne littérature chrétienne. Calvin connaît les écrits de ses docteurs, il les a étudiés nuit et jour, à Angoulême, à Paris, à Bâle. Il est arrivé au père d'Héré, dit-il, ce qui arrive à tous les hommes. Or, ces bons et obéissants fils, les moines romains, adorent les erreurs des pères et dissimulent ce qu'ils ont écrit de bien, tellement qu'ils semblent n'avoir d'autre soin que de recueillir des excréments parmi de l'or. Et puis, ils nous poursuivent avec de grandes clameurs comme contempteurs des anciens. Loin que nous les méprisions, nous pourrions prouver par leur témoignage la plus grande part de ce que nous disons aujourd'hui. Mais ces saints personnages varient souvent entre eux et même quelquefois se contredisent eux-mêmes. Ils ne doivent point dominer sur nous. C'est à Christ seul qu'il nous faut obéir entièrement et sans exception. Pourquoi nos adversaires ne prennent-ils pas les apôtres pour leurs pères, puisque c'est d'eux seuls et de nuls autres qu'il est défendu d'arracher les bornes? Et s'ils veulent que les limites des pères soient observées, pourquoi eux-mêmes, quand cela leur fait plaisir, les outrepassent-ils si audacieusement? Il y a plus, Calvin fait usage de ses docteurs. Il ne les craint pas, au contraire, il les appelle. Il les fait tous comparaître, défiler devant le roi et rendre témoignage contre les doctrines de Rome. Celui-ci était père, Épiphane, qui a dit que c'était une horrible abomination de voir une image de Christ et de quelques saints au temple des chrétiens. Celui-ci était père, Gélasius, pape, qui a dit que la substance du pain et du vin demeure au sacrement de la scène comme la nature humaine demeure en notre Seigneur Jésus-Christ, unie à son essence divine. Celui-ci était père, Augustin, qui appelle téméraire la pensée de prononcer une doctrine sans de clair témoignage de l'Écriture. Celui-ci était père, Paphnutius, qui a soutenu que le mariage ne devait pas être défendu au ministre de l'Église et que la chasteté consistait à avoir une femme légitime. Celui-ci était père, Augustin, qui a maintenu que l'Église ne doit pas être préférée à Christ, parce que, tandis que les juges ecclésiastiques étant hommes, se peuvent tromper, celui-ci, Christ, juge toujours droitement. Ah, si je voulais compter tous les points dans lesquels les docteurs de Rome rejettent le joug des pères, dont ils se disent les enfants obéissants, les mois et les années se passeraient à réciter ce long propos. Et puis, ils nous reprochent d'outrepasser les bornes anciennes. Calvin n'oublie pas qu'il parle à un prince. Frappé de l'état où se trouve le monde dans ce moment suprême, où l'on voyait s'entrechoquer de vieilles superstitions et un scepticisme nouveau, de vieux désordres et de nouvelles immoralités, des ambitions, des guerres, des désolations, il demande à grands cris un remède. Et convaincu que la réformation seule peut sauver la société, il s'écrie « Plusieurs océans de maux se débordent sur la terre. Plusieurs pestes nouvelles ravagent le monde. Tout tombe en ruine. Il faut désespérer des choses humaines ou y mettre ordre, même par des remèdes violents. » Et néanmoins, on rejette le remède. Ah, l'éternelle vérité de Dieu doit être seule écoutée dans le règne de Dieu. Contre elle ne prévalent ni des prescriptions, ni de longues années, ni des coutumes anciennes, ni quelque conjuration que ce puisse être. Mais l'Église, disaient les adversaires, si ce n'est pas nous qui sommes l'Église, où était-elle avant vous ? Ah, répond Calvin, combien de fois l'Église a-t-elle été éclipsée, sans forme, opprimée par des guerres, des séditions, des hérésies ? Saint-Hilaire ne reprend-il pas ceux qui, aveuglés par un respect insensé, ne remarquaient pas quelles pestes étaient quelquefois cachées sous de beaux dehors ? Vous cherchez l'Église de Dieu dans la beauté des édifices, mais ne savez-vous pas que c'est là que l'Antéchrist doit avoir son siège ? Les montagnes, les bois, les lacs, les prisons, les déserts, les cavernes me sont plus sûrs et de meilleures fiances. Car c'est là que les prophètes s'étant retirés ont prophétisé. Dieu, voyant que les hommes n'ont pas voulu obéir à la vérité, a permis qu'ils fussent ensevelis dans de profondes ténèbres et que la forme d'une véritable église fût effacée, tout en conservant, épars et cachés, çà et là, ceux qui lui appartenaient. « Si vous voulez, sire, un peu vous départir de votre loisir et lire mes enseignements, vous connaîtriez clairement que ce que nos adversaires appellent l'Église est une cruelle géhenne, une boucherie des âmes, une torche, une ruine. » Enfin, le jeune docteur, sachant que les cardinaux répètent sans cesse à François Ier, voyez que de contentions, de troubles, d'émeutes, la prédication de cette doctrine a attiré après elle, fait à cette banale accusation une réponse qui a quelque chose d'original et de frappant. Jamais, dit-il, la parole de Dieu ne vient en avant sans que Satan ne s'éveille et n'escarmouche. Il y a quelques années, tout étant enseveli dans les ténèbres, ce seigneur du monde se jouait des hommes à son plaisir et, semblable à un sardanapale, il prenait son passe-temps en paix. Que pouvait-il faire que de jouer et plaisanter puisqu'il était alors en tranquille possession de son règne. Mais depuis que la lumière, reluisant d'en haut, a déchassé les ténèbres, le prince de ce monde est tout à coup sorti de sa paresse et a pris les armes. Il a eu recours d'abord à la force pour opprimer la vérité, puis à la ruse pour l'obscurcir et l'éteindre. Oh, quelle perversité que d'accuser la parole de Dieu des séditions qu'émeuvent contre elle les fous et les écervelés. Ah, sire, ce n'est pas nous qui excitons les troubles, ce sont eux qui résistent à la vertu de Dieu. Est-il vraisemblable que nous, dont la bouche n'a jamais prononcé une seule parole séditieuse, quand nous vivions sous votre sceptre, a toujours été simple et paisible, nous machinions alors de renverser les royaumes? Maintenant même que nous sommes chassés, nous ne cessons de prier Dieu pour la prospérité de votre règne. S'il y en a qui, sous couleur de l'Évangile, émeuvent des tumultes, s'il y en a qui veulent cacher leur licence charnelle en mettant en avant la liberté et la grâce de Dieu, il y a des lois, des punitions ordonnées pour corriger ces délits. mais que l'évangile de Dieu ne soit point blasphémé par les maléfices des méchants. » Calvin va terminer son épître. « Sire, dit-il, je vous ai exposé l'iniquité de nos calomniateurs. J'ai voulu adoucir votre cœur pour que vous donniez audience à notre cause. J'espère que nous pourrons regagner votre grâce s'il vous plaît de lire sans courroux cette confession qui est notre défense devant votre majesté. Mais si les malveillants empêchent vos oreilles, si les accusés n'ont pas l'occasion de se défendre, si d'impétueuses furies, sans que vous y mettiez ordre, exercent toujours leur cruauté par les prisons, par le fouet, par les tortures, les coupures, les bûchers. Certes, brebis dévouées à la boucherie, nous serons réduits à la dernière extrémité. Cependant, même alors, nous posséderons nos âmes par notre patience et nous attendrons la main forte du Seigneur. Sans doute, elle se montrera en sa saison. Elle apparaîtra armée pour délivrer les pauvres de leurs afflictions et pour punir les contempteurs qui, à cette heure, si hardiment s'égaient. Le Seigneur, roi des rois, veuille établir votre trône en justice et votre siège en équité. » Tel était le noble et touchant plaidoyer qu'un jeune homme de 26 ans adressait alors au roi de France. Il entendait de loin les cris de douleur des victimes, et l'âme, émue de compassion et d'indignation, il apparaissait comme un suppliant devant le prince voluptueux qui les mettait à mort. Après avoir terminé ce discours d'une rare éloquence, Calvin mit la date. Bâle, le 1er jour d'août, 1535. Puis il se hâta de livrer son manuscrit à l'impression. Il y avait à Bâle une maison située sur les hauteurs de Saint-Pierre, portant pour nom à l'Ours Noir, où se trouvait une imprimerie qui appartenait au valaisan Thomas Plater. Calvin y entrait souvent. Plater, arrivé à Bâle avec Myconius, comme nous l'avons vu, y était devenu d'abord d'étudiant professeur. Et puis, les grosses sommes que gagnaient les imprimeurs lui avaient donné envie de le devenir. Calvin, cherchant un éditeur pour son institution, le savant Grinet lui recommanda Plater. Celui-ci eut l'honneur d'imprimer l'institution chrétienne. Dès lors, Calvin eut avec cet être si original des relations suivies. Quand, quelques années plus tard, Félix Plater, fils de Thomas, allant étudier la médecine à Montpellier, passa à Genève, Calvin, à qui il apportait une lettre de son père, l'appela « mon Félix » et le reçut avec une grande cordialité. « Je l'entendis prêcher le dimanche matin, » dit le jeune Ballois dans ses mémoires. « Il y avait une grande foule de peuple. » Ce fut, nous l'avons dit, en août 1535, que Calvin remit à Thomas Plater, pour l'imprimer, son adresse au roi François Ier. Il avait écrit en français et l'édition française porte la date du 1er août. Mais il la traduisit aussitôt en latin et termina ce travail vers le 23 du même mois, qui est la date de l'édition latine. Il est probable que cette épître à François Ier fut imprimée dans les deux langues et que la française fut envoyée au roi et la latine aux docteurs allemands en septembre 1535. François Ier reçut-il cette lettre? Prêta-t-il l'oreille à cet admirable plaidoyer? Il est certain que son cœur ne fut point adouci. Il est même possible que les plaisirs et la politique du monarque lui aient fait rejeter dès l'abord l'épître d'un des plus pauvres de ses sujets. Cependant, rien n'empêche de croire que le roi l'ait lu. Le style seul était digne du regard d'un prince. Les amis de Calvin et Calvin lui-même attendaient beaucoup de cette lecture faite par le roi. « S'il voulait lire cette lettre si excellente, disait l'un d'eux, une plaie mortelle, où nous nous trompons fort, serait faite à l'impudique Babylone. Mais un prince ambitieux, menteur et libertin, était-il capable de comprendre la noble pensée du réformateur ?» Calvin, ayant publié à Bâle son appel à François Ier, et peut-être achevé la correction des épreuves de l'institution, pensa à quitter cette ville. Ses publications devaient faire sensation, on saurait que l'hôte de Catherine Klein en était l'auteur. Calvin se verrait recherché, entouré. « Je n'ai point eu pour but de me montrer et d'acquérir du bruit, » dit-il. La crainte de paraître le porta donc à se retirer. Il avait pourtant d'autres raisons pour quitter Bâle. Il se sentait poussé vers l'Italie. Peu après, le 23 août 1535, Calvin s'étant acquitté, dit Théodore de Bèze, de ce qu'il devait à sa patrie, partit avec Du Tillet, fuyant les éloges, les remerciements, les approbations, comme un autre fuirait les menaces et les outrages. Les deux amis chevauchaient l'un à côté de l'autre. Leur itinéraire ne nous a pas été conservé. Il y a, chacun le sait, plusieurs passages pour traverser les Alpes, mais celui que choisit Calvin nous est inconnu, comme celui que prit Hannibal, plus important, je l'avoue. On a cru que les voyageurs arrivèrent sur les bords du lac de Genève. S'ils passèrent par la Suisse et se proposaient de traverser le Saint-Bernard, comme le porte un manuscrit du XVIIe siècle, ou le Simplon, ou même le Mont-Cenis, Calvin dut en effet alors se trouver pour la première fois sur les rives du beau lac. Quoi qu'il en soit, il allait franchir les Alpes. Il avait grande envie, nous dit Théodore de Bèze, de connaître la duchesse de Ferrare, princesse d'une vertu exemplaire. Mais d'autres motifs poussaient le jeune réformateur. Il voulait voir l'Italie, « Italia salutanda », nous dit son ami. Ce désir de saluer l'Italie, si constant dans les habitants du reste de l'Europe, depuis les temps où la Rome républicaine s'assujettissait les peuples, et qui existe encore de nos jours, Calvin l'a éprouvé comme un autre. Mais qu'allait-il y chercher? Tandis qu'il gravissait les Alpes, qu'il contemplait pour la première fois leurs immenses glaciers et leurs neiges éternelles, quelles étaient les pensées qu'il occupait? Il était question alors d'un concile. Cet événement qui semblait prochain était-il pour quelque chose dans son voyage? Voyant Vergerio se rendre d'Italie en Allemagne pour y soutenir la domination du pape, Calvin voulait-il se rendre de Suisse en Italie pour la combattre? Ou bien, attiré par la réputation presque évangélique des Contarini, des Sadolé et d'autres prélats, désirait-il s'entretenir avec eux? Sentait-il le besoin de voir de près cette papauté à laquelle il devait avoir affaire toute sa vie, et se proposait-il d'étudier, comme Luther, ses scandales et ses abus? Voulait-il reporter l'Évangile dans ce même pays où l'avait porté saint Paul? Ou était-il seulement attiré par des souvenirs classiques, par les lettres et la civilisation de cette illustre contrée? Il y avait sans doute un peu de tout cela dans le désir de Calvin. Il voulait saluer la terre des héros, des martyrs, des lettres, de René de Ferrare et des papes. Italia salutanda. Mais sa pensée principale, nous n'en pouvons douter, était d'enseigner les principes de la Réformation, d'annoncer à l'Italie que Christ avait aboli le péché et ouvert l'accès auprès du Père Céleste à toutes les âmes qui le cherchent. Un historien catholique dit que le jeune réformateur avait conçu le dessein de soustraire à l'obéissance du pape les peuples les plus proches de son siège. Il y a de l'exagération dans cette parole, mais le fond de la pensée est vrai. Calvin traverse donc les torrents. Il s'élève dans les vallées ascendantes des Alpes. Il franchit ces hautes montagnes qui semblent d'infranchissables murailles. Il s'avance courageusement vers ces contrées italiques où les hommes de la Réformation vont être bientôt noyés dans leur sang, où la persécution l'attend certainement et peut-être la mort. N'importe, il marche. On dirait, d'après un historien, que, comme Mithridate, il veut vaincre Rome dans Rome. Laissons-le pour le moment et tournons-nous vers ces contrées où, traversant de nouveau les Alpes, il se rendra après s'être échappé des prisons de l'Italie. Dirigeons-nous, après avoir parcouru quelques contrées environnantes, vers cette ville qui lutte énergiquement avec les évêques et avec les princes, où de courageux précurseurs vont lui frayer les voies et qui doit devenir, par le flambeau que Dieu y allumera un jour, en se servant de Calvin, le foyer le plus puissant de la Réformation européenne.